Bonjour à tous, je suis Katerina Kuzmenko, responsable développement durable et innovation du groupe Cardam et membre du board des Young Leaders sur la France. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série baptisée « Mise à l'honneur ». À travers cette série, co-dirigée ensemble avec Jean-Baptiste Budan et Farah Alabed, le board des Young Leaders sur la France souhaite mettre en avant les profils passionnants qui, par l'orientation de leur carrière, la diversité de leur parcours ou bien leur initiative entrepreneuriale, font la richesse des Young Leaders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elie Medina, responsable investissement chez Veil Invest, multifamily office basé à Paris et à Luxembourg. Elie, bienvenue, comment vas-tu?
Très bien, merci Katia, je suis très content d'être là, merci de me recevoir pour ce podcast.
Avec plaisir. Elie, peux-tu commencer s'il te plaît par te présenter?
Bien sûr. Alors, donc je m'appelle Elie Medina, j'ai 32 ans. Côté perso, voilà, je suis marié, j'ai deux enfants de 1 et 3 ans. Les journées sont déjà bien remplies. Et pour le côté pro, j'ai commencé mes études à Paris, à Dauphine, où j'étais vraiment des études de finance. Puis j'ai fait un an en master à la London School of Economics, c'est encore une fois en finance. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière à Londres, chez LaSalle Investment Management, qui dans l'équipe fonds de fonds immobiliers, où là, j'étais en charge de suivre des portefeuilles de fonds immobiliers donc qui détiennent des immeubles un peu partout dans le monde. Et c'était quand même très financier, assez loin du sous-jacent, mais ça m'a donné une bonne vision justement des marchés mondiaux sur l'immobilier. Et après ça, j'ai voulu revenir à Paris et j'ai atterri chez Swiss Life Asset Managers, d'abord dans un rôle de chef de cabinet auprès du CEO Frédéric Boll. Et c'était à la fois un poste et une période super intéressante pour la boîte parce qu'il y a eu une énorme croissance. Et donc, ça m'a permis de participer à des projets vraiment stratégiques, une envergure que je ne reverrai jamais. Comme par exemple, lorsqu'on a acquis un portefeuille d'actifs de bureaux parisiens auprès de la foncière Tereis pour 1,7 milliard de valeur.
Incroyable.
Assez énorme. Et après ça, donc j'ai voulu encore me rapprocher, on va dire, du concret de l'immobilier et j'ai intégré l'équipe acquisition où du coup là-bas, j'étais en charge de réaliser tout le process d'investissement pour des actifs commerciaux, résidentiels, pas mal de logistique aussi. J'y suis resté pendant 3 ans. Et après ça, j'ai eu envie d'un nouveau challenge. Et donc en début 2022, j'ai rejoint donc Veil Invest, un multifamily office dans lequel on accompagne une dizaine de clients sur tout le développement de leur patrimoine, mais aussi la gestion de leur gouvernance familiale, plein de projets divers et variés. Moi, j'ai été recruté un peu pour structurer le département immobilier. Et aujourd'hui, mon rôle est quand même super opérationnel et un peu touche à tout. Ça veut dire que je vais piloter des property managers, je source des actifs et j'exécute des investissements pour l'immobilier patrimonial. Je structure aussi des club deals un peu avec des opérateurs spécialisés pour des opérations marchands de biens. Je fais les financements. Donc voilà, c'est ce côté très entrepreneurial qui est assez stimulant et qui me plaît beaucoup aujourd'hui.
Incroyable. Donc ta carrière, elle est allée assez vite, ouais.
Ça s'est fait un peu par hasard à chaque fois, de manière assez fortuite. Ouais, les différents moves, notamment pour tomber sur le family office, c'était quand même un peu un coup de chance d'une rencontre avec le patron. Alors que j'étais quand même bien chez Swiss Life, mais j'ai eu cette opportunité qui m'est venue et c'est un peu ma chance aussi, c'est que je suis parti. Début 2022, on pourrait dire que j'ai du flair, mais il y avait aussi une grande part de chance dans le fait que je suis parti avant que la situation de marché immobilier se contracte vraiment. Et du coup, en arrivant dans une petite structure, on a plus d'opportunités de faire d'autres choses. Donc ça, c'est pour le coup, il faut un peu de chance dans une carrière aussi, je dois reconnaître.
Donc la chance que tu as eue, c'est un peu ça qui est pour toi un peu l'accélérateur.
J'ai bien bossé.
oui, bien sûr. Tu as bien bossé, mais tu as eu beaucoup de chance aussi.
Ça m'a aidé.
Et donc, tu disais que tu as commencé par les études de finance et globalement, tu viens du monde de finance. Et donc, pourquoi immobilier?
Ouais, c'est vrai que j'ai fait des études de finance, donc je n'étais pas destiné particulièrement à faire de l'immobilier. Mais au moment de faire un choix, on va dire, de choisir la classe d'actifs dans laquelle on veut aller en finance, en parlant avec divers gens, je me suis rendu compte que l'immobilier, ça a regroupé trois domaines que j'aimais bien. Donc, il y a D'abord, l'aspect financier pur, ça veut dire modéliser des cash flows, être beaucoup sur Excel, à faire un peu le geek, voilà, ça me plaît.
Oui, bien sûr, parce que l'immobilier, ça reste un actif financier.
Voilà. Le voir sous ce prisme-là, je trouve ça intéressant, puisqu'en plus, c'est relativement, je vais pas dire facile à modéliser, mais on parle quand même de souvent modéliser des travaux et puis un loyer avec un bail fixe. Donc, les variables sont assez limitées. Quand on modélise, on n'est jamais trop loin de la réalité. Après, il y a la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de relationnel dans l'immobilier. On est dans un marché qui est finalement très opaque. Ça veut dire on est obligé d'être au contact des brokers constamment pour qu'ils se souviennent de vous, qu'ils vous proposent des opportunités. Il n'y a pas une plateforme qui recense tous les deals en cours. Alors que c'est, enfin surtout dans l'immobilier français, c'est vraiment le cas. Dans les pays anglo-saxons, par exemple aux US, c'est un marché qui est un peu plus transparent. Mais ici, on est obligé du coup de parler à tout le monde régulièrement pour un peu avoir le pouls du marché et savoir où sont les bonnes opportunités à prendre. Donc
très relationnel.
Voilà, c'est sympa de pouvoir un peu ne pas être tout le temps devant l'ordi et de parler à des gens. J'aime bien aussi. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il y a ce côté très technique dans l'immobilier. C'est un métier qui est couvert de réglementations et de normes dans tous les sens. Donc on est obligé de s'entourer d'experts quand on est dans l'investissement et on apprend du coup sur chaque deal, sur chaque actif, on apprend des nouvelles choses, que ce soit sur les normes de construction, l'urbanisme, la partie juridique ou la structuration des investissements. Il y a vraiment toujours quelque chose à apprendre et ça, c'est assez stimulant finalement d'être dans une industrie où on n'a jamais fini d'apprendre.
Et du coup, aujourd'hui, ce sera quoi qui te passionne toujours dans ton travail et dans l'industrie en général?
Et ce qui peut rejoindre ce qui est attirant dans l'immobilier, c'est déjà que quand on vit à Paris, moi je trouve que c'est difficile d'être complètement indifférent à l'immobilier. On a la chance de voir les plus beaux bâtiments du monde.
Ouais, n'est-ce pas?
Voilà, on a toujours envie un peu de s'intéresser et quand on voit l'histoire derrière des bâtiments, ils ont des centaines d'années, on a vraiment une chance quand on est à Paris de pouvoir travailler là-dessus. Alors après, bien sûr, on travaille pas que sur des immeubles haussmanniens, hein, faut être réaliste, mais sinon, il y a toujours finalement le côté concret, le fait qu'on réalise une vision, par exemple en faisant des travaux ou en construisant un immeuble. Et ça, c'est super motivant et excitant de se dire qu'on crée quelque chose qui va peut-être nous dépasser. Et enfin, il y a le dernier point, c'est que l'immobilier, quand on le regarde comme une classe d'actifs financières, elle revêt un côté social que n'ont pas les autres. Et là, je parle plutôt surtout de mon expérience de family office. Je me rends compte que les clients, ils aiment beaucoup l'immobilier, pas seulement pour la partie financière ou voilà risque-rendement, mais pour ce côté social. C'est-à-dire que c'est toujours plaisant et ça va, on va dire que ça va faire mouche dans un dîner si on peut dire que voilà on a travaillé ou qu'on détient un appartement ou un immeuble dans cette rue et qu'on a travaillé sur ça. Ça parle à tout le monde l'immobilier, alors que je pense que personne n'a jamais dit dans un dîner « Ah, j'ai un super fonds action qui a fait 15%
». Oui, c'est ça.
Ça parle beaucoup moins aux gens, alors que voilà, des actions, des obligations, ça parle pas vraiment aux gens, ils s'en foutent un peu.
Et finalement, en quelque sorte, l'opération immobilière, même financièrement parlant, vraiment réussite, c'est celle qui plaît aux gens. Donc,
c'est ça.
Donc en fait, finalement, c'est une réussite forcément partagée avec la société.
Exactement. Et ce côté social, il est super important dans l'immobilier pour que les gens aient envie de le faire et je pense que ça joue beaucoup.
C'est vrai, je te rejoins complètement sur ce point. Et donc du coup, à ton avis, actuellement, est-ce qu'il y a un challenge en particulier qui tu pourrais souligner ou mettre en avant dans l'industrie actuelle? Il y en a plusieurs, j'imagine.
Il y en a plusieurs. Mais le challenge évident, si je dois en plus revêtir la casquette du financier, c'est effectivement l'industrie, elle est actuellement un peu dans une crise liée à la remontée des taux d'intérêt depuis 2022. Parce qu'il s'est quasiment même rien passé en 2023 en termes de transactions et c'est encore assez lent aujourd'hui. Les investisseurs sont pas revenus, même s'il y a eu des corrections de prix, mais plutôt sur des actifs secondaires, ça veut dire on va dire par exemple du bureau en périphérie notamment. Mais pour des bons actifs comme du bureau parisien haussmannien, la prime de risque, on va dire, elle s'est pas recomposée. Le marché a ralenti, c'est pour cette raison-là et parce que l'immobilier, on l'utilise beaucoup avec de la dette. Et donc quand la dette coûte tout de suite plus cher, la rentabilité de l'investissement est beaucoup plus compliquée. D'accord. Et les banques prêtent moins aussi parce qu'elles ont moins envie d'en faire.
Ok, très clair.
Tant mieux.
Donc ça c'est donc ça c'est la le.
Mais ça c'est le problème, voilà. Ouais, ça c'est le problème, non, ça voilà. C'est le challenge.
Voilà.
Mais non, effectivement, ce challenge il va être relevé et puis je pense qu'on voilà, on entre du coup dans un nouveau cycle immobilier où il y aura un peu plus d'inflation, des taux d'intérêt qui seront un peu plus élevés qu'avant. Donc ça va aussi changer quelques paramètres dans le sens où je pense qu'on pourra créer de la valeur qu'en travaillant les actifs. Le fait de tenir un immeuble et de se dire que les taux vont baisser, ce sera plus une stratégie qui me semble vraiment viable. Et pour ça, si je peux prêcher pour ma paroisse, c'est vrai que je pense que les family office sont assez bien positionnés pour adresser ce challenge dans ce nouveau cycle, puisque dans un family office, il y a finalement peu de contraintes dans ce qu'on peut faire, alors que chez les instits, le niveau de risque et la stratégie d'investissement sont souvent très encadrés. Alors qu'avec nos clients, on peut justement en profiter en allant s'insérer là où les instits ne vont pas. D'ailleurs, on a vu plusieurs family office se positionner et faire des acquisitions sur des grosses transactions ces derniers mois parce que les instits n'étaient pas là justement pour offrir de meilleurs prix. Et je pense qu'on peut aussi plus facilement s'adapter aux nouveaux usages, à la tendance de l'immobilier avec les services parce que nos clients, ben voilà, ce sont des entrepreneurs. Donc, ils ont envie de développer l'opérationnel, tous les services associés à l'immobilier qui est voulu aujourd'hui. Tandis que ces concepts, déjà, mettent plus de temps à mûrir chez les institutionnels. Mmh. Et ils font face à des contraintes réglementaires où parfois les fonds instits ne peuvent pas directement exploiter les biens. Ils sont cantonnés à devoir signer des baux. Tandis qu'un family office va pouvoir justement intégrer toute la chaîne de valeur et opérer et détenir le bien immobilier. Donc en ça, je pense qu'il y a des bonnes opportunités dans ce cycle.
Et est-ce que tu penses que, en plus de type d'acteur qui peut être un peu redéfini justement avec cette crise qui tu cites liée à l'augmentation des taux d'intérêt, est-ce que à ton avis, il y a aussi les classes d'actifs et le type d'immobilier qui va être plus ou moins gagnant dans l'histoire? C'est-à-dire que pendant très longtemps, par exemple, on investissait dans les bureaux. Aujourd'hui, c'est le marché en baisse. Mmh. Est-ce que tu trouves que il y aura une redéfinition, on va dire, des stratégies d'investissement par rapport aux typologies, vraiment?
Ouais, cette redéfinition des typologies, elle est en cours et elle se poursuit. Elle n'est pas tellement liée effectivement à la crise liée au taux d'intérêt, mais ces tendances vont se poursuivre du fait de le bureau dans des régions secondaires avec le télétravail va continuer à perdre un peu en valeur. Il y a cette course à devoir aussi avoir toujours des bâtiments rénovés et les enjeux énergétiques qui vont avec, qui sont toujours prégnants. Et enfin, je pense que la logistique, moi, je suis toujours très convaincu que compte tenu des contraintes foncières, des enjeux de zéro artificialisation, à la fois la logistique en campagne et la logistique urbaine vont être amenées à toujours prendre plus de place dans le secteur. Après, sur la partie retail, je suis plus mesuré, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression quand je passe dans la rue qu'il y a toujours des boutiques qui ferment.
Oui, c'est clair.
Il y a beaucoup de turnover. Ouais. Maintenant, c'est quand même un secteur qui se porte, qui est plutôt résilient en général. Donc là-dessus, c'est plus une question que je me pose.
D'accord, ok. Donc il n'y a pas de lien direct pour toi entre l'augmentation de ton intérêt et le type d'actif qui va être plus ou moins intéressant?
Non, je pense qu'en tout cas, il y a eu beaucoup plus un impact post-Covid.
Post-Covid, ouais.
Là, ça a vraiment accéléré les tendances. Non, ce que ça a fait, les taux d'intérêt, c'est que ça a plutôt augmenté la différenciation, le split entre les bons actifs et les mauvais. Mais ça, c'est quoi qu'il arrive, un peu dans une crise, il y a toujours cette
sélection naturelle.
cette dichotomie entre les deux types d'actifs.
Parfait. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter peut-être un projet dont tu es particulièrement fier, ou peut-être pas fier, mais qui t'a marqué et dont tu aimerais citer dans cet échange?
Ouais, j'en ai bien un. C'est un projet sur lequel je travaille actuellement et qui est un peu en parallèle de l'activité de family office. Je contribue à un projet entrepreneurial qui s'appelle La Relève et qu'on réalise avec notre partenaire qui est Audit & Coverage. On a créé le premier incubateur immobilier pour marchands de biens. Ça veut dire on offre 3 services à des gens qui veulent devenir marchands de biens. On les forme, on les accompagne et on les finance. D'abord, de manière assez classique, on propose une formation spécialisée avec des experts, mais ça, je pense qu'il y en a pas mal qui se positionnent là-dessus. Par contre, ce qu'on fait que les autres ne font pas, c'est qu'on les accompagne déjà, les candidats, en leur donnant accès à tout notre écosystème de prestataires, et puis on les aide dans l'analyse des opérations, la construction des business plans, on va même visiter les actifs avec eux.
Incroyable.
Donc on s'implique parce qu'après, en fait, on va partager le risque financier en investissant à leur côté, à 50-50, dans leurs 3 premières opérations de marchand de biens. Et ça les aide et on les aide à trouver le financement bancaire nécessaire pour réaliser cela avec des banques partenaires.
C'est un beau projet entrepreneurial.
Voilà, c'est sympa pour le côté entrepreneurial et je pense que ça, c'est aussi un peu une réponse à notre niveau, à tous les enjeux qu'on a cités, de rénovation énergétique, de vieillissement de la population. Chaque incubé a un peu sa vision, son enjeu. Donc on en a qui justement crée des appartements dédiés aux personnes âgées avec tous les équipements nécessaires, ou il y en a qui sont dans le thème éco-responsable et qui donc vont avoir que des matériaux sourcés spécifiques. Ouais. Et du coup, on voit bien que le parc immobilier français a fort besoin de renouvellement et de transformation pour répondre à ces enjeux. Et donc, au lieu, on va dire, d'être chez un gros institut qui va mener à bien ses projets, mais sur des immeubles d'envergure, eh ben nous, au niveau micro, on essaye de former des gens et de partager la valeur avec beaucoup de petits acteurs pour qu'ils deviennent marchands de biens. Et en même temps, pour être marchand de biens, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une grosse barrière à l'entrée qui est que la banque, elle va pas vous financer si vous avez pas déjà une expérience.
D'avoir réalisé. Une référence pour avoir une première opération.
Pour avoir une première opération financée avec un crédit in fine. Mmh. Ça veut dire, en fait, que les gens qui arrivent à le faire sans formation, c'est qu'ils ont un capital de départ important ou des revenus complémentaires qui peuvent leur permettre de faire des opérations à côté. Et là, du coup, c'est l'opportunité de se lancer directement sans passer par cette case-là quand t'as pas le capital nécessaire de base.
Très bien.
Voilà, donc c'est assez motivant.
J'imagine. Merci beaucoup, Élie, pour ce partage de tes projets, de tes visions, de ton parcours. Donc, nous discutons aujourd'hui dans le cadre des podcasts lancés par URF France. Et pour conclure cet épisode, je serais curieuse de connaître comment tu as connu le réseau de ULI, depuis quand tu en fais partie et qu'est-ce que tu apprécies le plus?
Bien sûr. J'ai connu ULI, du coup, quand je suis arrivé chez Swiss Life en 2017. C'est Béatrice Gage qui m'a présenté l'association. Elle est directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life et elle est aussi membre du steering committee de ULI, donc assez impliquée. Et on a, dès le début de mon expérience chez Swiss Life, on a collaboré ensemble sur pas mal de projets, notamment quand on avait fait l'acquisition d'un gros portefeuille de 4000 logements auprès de la SNCF. Et elle m'avait beaucoup aidé et impressionné par sa méthode et sa modélisation, on va dire, des revenus locatifs liés à ce portefeuille. Donc après, elle m'avait parlé de l'ULI, elle m'avait vanté tous ses mérites. Et ce qui est très intéressant du coup chez ULI, c'est la diversité des profils qu'on rencontre et la qualité des événements avec les intervenants qui sont vraiment variés, pas que dans l'investissement. On rencontre des architectes, des gens comme toi qui sont dans un autre univers. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si toi, comment t'as connu ULI, si tu veux me répondre.
Pareil, à travers un collègue qui m'a conseillé et qui disait que c'est forcément super intéressant pour ma carrière. Et je partage entièrement ta vision sur la richesse que ça peut être d'échanger régulièrement avec les gens qui viennent des milieux très différents.
Ouais. En plus, je pense que ça rejoint aussi le fait que, comme je disais, l'immobilier, c'est un marché qui est quand même super opaque. C'est d'autant plus important de se faire des contacts pour se créer des opportunités et développer sa carrière. On ne peut pas rester dans son coin.
Exactement. Merci beaucoup, Élie, d'être passé et d'avoir partagé tes visions et tes projets.
Merci à toi. C'était très intéressant et je suis ravi d'avoir pu contribuer à ce podcast. J'espère que je m'en suis bien sorti pour une première.
C'était top. Merci beaucoup.
Merci.